Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Huit ans de servitude pénale principale, c'est le verdict prononcé contre une dame par le tribunal de grande instance de Bukavu ce week-end. Elle s'est rendue coupable d'enlèvement d'une fillette de 8 ans vendredi au collège Al-Fadjiri de Bukavu. Une grande partie de la ville de Mbujimayi est plongée dans le noir depuis bientôt 2 semaines. Une panne au niveau de la centrale hydroélectrique de Tiala en serait la cause, explique Victor Kabongo, directeur général de l'entreprise Énergie du Kasaï Enerka qui commercialise l'énergie électrique. Enfin, notre invité dans cette édition du journal est le professeur Casimir Goumbi Kitete de l'université de Kisangani en séjour au Maniema. Il nous parle de l'approche populaire de la résistance en République démocratique du Congo contre sa déstabilisation permanente. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par le Sud Kivu. Le tribunal de grande instance de Bukavu a condamné le week-end dernier à Bukavu une dame pour vol simple et enlèvement d'enfants. Julie Manyumba Musombwa a écopé d'une peine de 8 ans de servitude pénale principale. Le jugement a été prononcé dans la cour du collège Al-Fadjiri à Bukavu, là même où l'infraction a été commise. Jean Kassami nous en fait le point.
L'affaire remonte à vendredi 9 septembre 2022 lorsqu'une dame débarque dans une église de la paroisse catholique d'Engouba où une mère de famille est prise avec ses 2 enfants avant de les conduire à l'école primaire du collège Al-Fadjiri. Après la prière, la mère se retire un instant pour se soulager. La kidnappeuse profite pour récupérer les sacs laissés à la garde des enfants par leur maman. En plus, elle prend aussi un de 2 enfants, une fillette de 8 ans, élève en 3e année primaire au collège Al-Fadjiri. Une fois dehors, l'enfant crie au secours. Les services de sécurité de l'école arrivent à maîtriser la dame. Les autorités scolaires sont alertées et les procès en flagrance débutent en début d'après-midi. Le jugement tombe dans la soirée.
En fait, comme en droit, l'infraction d'enlèvement d'enfants mis à charge de la prévenue Julie Manyumba Musombwa, alias Julienne. En conséquence, la condamne au cumul de peine, soit 8 ans de service pénal principal.
2 autres personnes impliquées dans le même dossier sont condamnés chacun à 3 mois de servitude pénale principale par le tribunal. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Restons dans le sud Kivu, territoire d'Uvira. Un minibus d'une agence de transport en commun en provenance de la ville d'Uvira est tombé ce lundi matin dans une embuscade des coupeurs de route. L'incident s'est produit au niveau de Rushima entre les villages Luberizi et Bwegera dans la plaine de la Ruzizi. Selon des sources locales à Luberizi, les passagers du bus ont été dépouillés de leur argent. On parle d'au moins 1000 dollars américains. Les réseaux locaux de protection des civils condamnent cette attaque, la deuxième enregistrée en l'espace de 2 jours dans la plaine de La Ruzizi, Fiston Goma.
Le malfrat n'a tiré aucun coup de feu lorsqu'ils ont intercepté le véhicule au niveau du ravin de Rushima. L'incident s'est produit à l'endroit même où est érigé un poste de garde de FRDC qui était vide. Après l'incident, les témoins affirment que le véhicule a poursuivi sa route avec tous les passagers à bord. Les habitants condamnent par ailleurs le fait que l'incident se soit produit très tôt le matin alors que le militaire n'était pas à ses postes stratégiques de Rushima. Il y a 2 jours, 2 autres véhicules sont tombés dans une embuscade des hommes armés non identifiés à Rwanzobe, une entité inhabitée située sur la même route nationale numéro 5 entre les villages Mutarule et Nyakabere 2 au nord de Sangé. Les malfrats avaient réussi à emporter le bien des passagers, notamment de l'argent, des téléphones portables et autres. Dans un rapport de monitoring du réseau local de protection des civils du mois d'août dernier, son secrétaire exécutif Yves Ramazan Ouaramazani avait fait état d'une accalmie relative dans cette région de la Ruzizi avec la présence des forces conjointes FRDC forces burundaises. Ces forces ont été déployées dans le haut plateau d'Uvira pour traquer les rebelles burundais abandonnant la plaine de la Ruzizi sans défense, s'est indigné cet acteur des droits de l'homme. D'Uvira, Fiston Mayabala, Radio Kapi.
Au nord Kivu, pendant ce temps, 2 bus transportant des retournés congolais en provenance de l'Ouganda ont été détournés de destination qui est le site des déplacés de Rwassa dans le territoire de Rutshuru. Les passagers auraient été amenés dans la zone occupée par les rebelles du M23. Cela s'est passé le week-end. Information confirmée par les autorités coutumières de Djomba et par un élément de Rutshuru. Un élu de Rutshuru, il parle d'une prise d'otages et disent craindre pour la sécurité de ces personnes. Le point avec Innocent Fadili.
Elles étaient environ une centaine de personnes à bord de ces deux bus qui quittaient le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda à destination des Rutshuru. Selon un député provincial élu de ces territoires, ses compatriotes congolais devraient rejoindre d'autres centaines de retournés cantonnés depuis environ deux semaines sur les îles de Rwassa, environ 4 km de la cité de Kiwanja en territoire des Rutshuru. Ces bus devraient passer par Kitagoma. Chemin faisant, ils auraient changé de destination et dévié vers la cité de Bunaga, Ghana, zone occupée par les rebelles du M23, où ces personnes auraient été abandonnées selon la même source. Et d'après un chef coutumier de Jomba, ses compatriotes auraient été dupés par les autorités ougandaises. Ces dernières les ont confirmé que la cité de Bunagana était récupérée par l'armée et que les rebelles seraient chassés, ce qui a motivé leur volonté de retourner. Ce chef dit craindre l'enrôlement des jeunes dans le rang de ces rebelles et d'autres exactions dont seraient victimes ces retournés. Il appelle à une action urgente du gouvernement pour libérer Bunagana, qui est sous occupation des rebelles du M23 depuis environ trois mois maintenant. Signalons que des centaines de familles de déplacés ayant fui les affrontements entre l'armée et le M23 et qui restaient encore cantonnés dans la cité de Kibaya, district de Kisoro en Ouganda, ont été chassés par les forces de sécurité ougandaises il y a deux semaines, au motif avoir refusé de rejoindre le camp des réfugiés de Nyakavandi.
Et puis le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, interpelle les différents groupes Mai Mai dans la région de Beni et de l'Ituri à ne pas s'attaquer aux FRDC qui combattent les rebelles ADF. Cette interpellation fait suite aux multiples attaques ce dernier jour par ces combattants contre les différentes positions des FRDC dans les territoires de Beni au Nord Kivu et de Mambasa en Ituri. Pour son coordonnateur, ces attaques ne servent qu'aux intérêts de l'ennemi. Par ailleurs, il encourage l'effectivité du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans les deux provinces en état de siège. Maître Omar Kavota, coordonnateur du CEPADO, explique au micro d'André Kitenge.
Ces attaques de différents groupes Mai Mai dirigés contre les FRDC en territoire de Beni, Mambasa et Irumu sont une épine dans les opérations de traque contre les terroristes ADF-MTM. Nous voudrions ici en interpeller les leaders de ces groupes, soi-disant Mai Mai, qui s'appellent parfois d'autodéfense ou encore des patriotes ou des nationalistes, en leur disant que ces groupes servent aux intérêts des ADF qui déstabilisent la paix et la sécurité dans cette région. Par ailleurs, nous voudrions encourager la coordination du PDDRCS à pouvoir se mettre à l'œuvre pour que ce programme soit effectif dans ces provinces en état de siège. Il y a d'autres groupes de Mai Mai qui se sont déjà rendus et qui attendent qu'ils soient pris à charge. Il ne faudrait pas que les combattants de ces groupes soient tentés de rejoindre d'autres qui sont réfractaires ou qui servent de béquilles aux ADF-MTM.
En Ituri, 40 morts, dont 17 enfants et plus de 400 maisons incendiées. C'est le bilan actualisé de l'attaque vendredi dernier des miliciens de la Codeco au village de Mbijo, à 5 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Selon plusieurs sources concordantes, la plupart des victimes sont mortes calcinées dans des habitations et d'autres ont été tuées par balles. La société civile locale déplore l'absence totale de l'autorité de l'État dans cette région qui est contrôlée par cette milice. Ezekiel Mouzalia.
Le premier bilan de cette attaque des miliciens de la Codeco à Mbijo était de 17 personnes tuées et 306 maisons incendiées selon des sources de sécurité. Après évaluation des dégâts le week-end par la société civile locale, son président indique que d'autres corps ont été découverts dans des maisons incendiées par ces groupes armés. Jules Ouechi précise qu'au total, 40 personnes ont péri dans cette attaque. Parmi les victimes figurent 15 femmes et 17 enfants, dont la majorité en âge scolaire et plus de 400 maisons incendiées. La même source indique qu'au moins 200 motos que les enseignants des différentes écoles primaires avaient reçues à crédit ont été également pillées. L'armée déplore le degré de violence des miliciens réfractaires de ces groupes armés en violation de leur acte d'engagement. Son porte-parole à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ajoute que les FARDC gardent leur position pour traquer ces hommes armés qui cherchent à compromettre le processus de paix en cours.
Nous sommes en position de combat dans les carrés miniers, là où ils se recherchent pour le contrôle des ressources. Et lorsque nous sommes informés, ça ne tarde pas pour intervenir. Nous les conscientisons encore, mais nous sommes à notre poste du devoir.
Entre-temps, les leaders communautaires haussent les tons pour réclamer la prise en charge des miliciens favorables au processus de paix en province. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis les autorités coutumières de la province du Congo central se disent préoccupées des proportions que prend le conflit intercommunautaire entre les peuples Teke et Yaka, habitant les territoires de Kwamout dans la province du Maïndombi. Dans une déclaration faite hier à Matadi, les représentants des chefs coutumiers de toute la province du Congo central ont appelé les Teke et les Yaka à cesser les hostilités et à se mettre sous l'arbre à palabre pour parvenir à un accord. Au nom de tous, Kulu Diayona Welo, ayant droit coutumier de la ville de Matadi, a indiqué que la situation qui prévaut à Kwamout ne fait qu'affaiblir les efforts du gouvernement de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Nana Purchimambu pour le reportage.
Venus de tous les coins du Congo central à l'invitation du gouverneur de province Guy Bandou, les représentants des autorités coutumières se sont saisis de l'opportunité pour passer en revue les nœuds du problème ainsi que les corollaires ayant engendré les conflits intercommunautaires entre les Teke et les Yaka, habitant les territoires de Kwamout. D'après ces derniers, ces conflits n'ont fait que perdurer et a causé plusieurs dégâts, tant humains que matériels. Au nom de la langue Kikongo que le Congo central partage avec les grands Bandundu, les ayants droit coutumiers du Congo central appellent leurs frères de Kwamout à enterrer la hache de guerre et à penser à l'essor de leur entité. Welo Kulu Diayona est l'un d'eux.
Nous voulons que chaque province se développe. Ils ne doivent pas être dans l'erreur. Les Teke et les Yaka, trouver un accord et laisser ces guerres inutiles. Voyez ce qui se passe dans l'est du pays. Le social des Congolais est mis en mal puisque le gouvernement concentre toute son énergie à y rétablir la paix. Ne cherchez pas que la même histoire se répète chez vous qui êtes nos frères avec qui nous partageons la langue Kikongo. Nous, chefs coutumiers du Congo central, disons non à ces conflits. À l'issue de leur rencontre, ces représentants des autorités coutumières du Congo central ont levé haut la canne du pouvoir appelé traditionnellement Ngongi, synonyme selon eux du déclenchement du sirène signalant la fin de ces hostilités entre les Teke et les Yaka. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, une grande partie de la ville de Mbujimayi est plongée dans le noir depuis bientôt 2 semaines. D'après le directeur général de l'entreprise énergie du Kasaï Enerka qui commercialise l'énergie électrique, il s'agit d'une panne qui s'est récemment déclarée au niveau de la centrale hydroélectrique de Tiala. Victor Kabongo signale tout de même que des équipes mixtes des techniciens d'Enerka et de la société de Bakwanga Miba sont à pied d'œuvre pour réparer les machines. Toutefois, il déplore les difficultés liées au manque de moyens financiers pouvant permettre à son entreprise de faire face à la défaillance des machines déjà archaïques. Victor Kabongo a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Il y a environ 2 semaines que la production de l'énergie à la centrale de Tiala ne suit pas la demande et les besoins de la population. Il y a 48 heures, la situation s'est empirée avec l'arrêt de l'unique machine qui tournait là, le groupe L12. On est à 0 kW sur la ville, 0 machine à Tiala. Nous avons déployé les équipes mixtes Enerka Miba qui sont à pied d'œuvre incessamment. On aura la première machine sur les réseaux, la deuxième machine va suivre et la troisième qui demande beaucoup de pièces à reconditionner dans les ateliers moyennant l'acquisition de pièces de rechange pourra suivre après. Il faut signaler pour la énième fois que la centrale de Tiala, c'est une centrale Miba dont les machines installées là-bas datent d'un certain âge. Il y a les machines de 1933, beaucoup de gens le savent, de 1953. D'une vieille technologie et l'acquisition des pièces de rechange, c'est vraiment difficile. Il faut commander, mais les grands problèmes, c'est le manque des moyens. Il nous faut avoir les capitaux frais pour réhabiliter complètement les machines et renouveler aussi d'autres équipements.
Parlons santé dans cette édition du journal. Dans la province du Nord Kivu, celle-ci a enregistré 104 cas de décès maternels et infantiles au premier semestre de l'année en cours. Un chiffre largement supérieur aux statistiques de 2 années précédentes. Une situation qui préoccupe non seulement la corporation des sages-femmes en province, mais également la division provinciale de la santé. Les principales causes de cette flambée de cas de mortalité maternelle et infantile en province sont entre autres les hémorragies lors de l'accouchement et une mauvaise couverture vaccinale pour les enfants. Reportage Sadiki Aboubakar.
La Société congolaise de la pratique sage-femme au Nord Kivu rapporte qu'au seul premier semestre de l'année en cours, au moins 104 cas de décès maternels ont été enregistrés en province, aux côtés des 199 en 2021 et 192 en 2020. Vakiokelo, son président, affirme que des complications dues aux hémorragies sont les principales causes de cette situation. Il ajoute que l'insécurité et le manque d'accès facile aux structures de santé dans plusieurs coins de la province sont également prises en compte. Le médecin chef de la division provinciale de la santé au Nord Kivu reconnaît ces faits, tout en rassurant l'implication du gouvernement et ses partenaires en vue d'améliorer la situation. Docteur Janvier Kubuya invite les femmes enceintes au respect de la consultation prénatale.
En amont, la dame, elle est obligée, elle n'a pas de choix d'aller consulter ces services de consultation prénatale. Facilement, on peut identifier des facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant ou sur la femme enceinte. Pour autant soit peu réduire le décès des enfants, il y a des interventions à haut impact, notamment la vaccination.
Signalons que certains hôpitaux du pays bénéficient déjà du programme d'accès gratuit aux soins pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Et puis mettre en place un programme à la citoyenneté et à l'éducation aux élections à tous les niveaux de l'enseignement, mais aussi dans différentes sphères sociales en vue de prévenir les violences électorales. C'est la principale recommandation faite hier, dimanche, à Goma, devant la crème intellectuelle locale par le colonel Job Alissa dans sa thèse de doctorat défendue en août dernier à l'Université pédagogique nationale UPN. Cet officier de la police nationale, la ville de Goma, s'est dit motivé par son expérience professionnelle au regard des conséquences enregistrées avant, pendant et après les cycles électoraux précédents. Job Alissa promet de s'impliquer pour améliorer la prestation des éléments de la police lors des élections à venir. Il s'exprime au micro de Radio Okapi.
Nous avons été motivés, étant acteurs directs dans la sécurisation des processus électoraux, surtout pour 2006, 2011 et 2018. Nous avons été vraiment influencés, surtout avec ce que nous avons observé sur le terrain, à travers les différentes violences qui se produisent avant, pendant et après les élections. Alors cela nous a beaucoup motivés pour que nous puissions parler de la sécurisation du processus électoral et surtout au Nord Kivu, nous-mêmes nous sommes en train de travailler. Oui, au Nord Kivu, nous avons non seulement que nous avons perdu certaines personnes, il y a eu incendie de certains bureaux de la police, il y a eu des destructions, il y a eu accrochage entre les militaires des partis politiques, de l'opposition et c'est de la majorité. Oui, et en tout cas, dans ce travail, nous avions trouvé que toutes ces violences sont influencées, sont produites sur base du comportement des acteurs impliqués dans les processus électoraux. Nous avons défini les approches dans lesquelles nous proposons qu'on associe d'abord tous ces acteurs dans les cadres et même qu'ils participent à leur éducation dans la formation de leurs connaissances.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, 4 ans après sa signature, l'accord de paix au Soudan du Sud n'a pas amélioré la vie de la majorité des habitants du pays entre instabilité et impunité sur les crimes de guerre. Le constat reste amer.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Casimir Goumbi Kitete de l'Université de Kisangani en séjour au Maniema. Il nous parle de l'approche populaire dans la résistance en République démocratique du Congo contre sa déstabilisation permanente. Professeur Casimir Goumbi Kitete s'entretient ici avec Florence Kizalunga. Suivez.
Professeur Casimir Ngoumbi, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de parler de l'approche populaire de la résistance en RDC contre sa déstabilisation permanente. Quel est l'intérêt de ce thème en cette période?
Oui, c'est la sensibilisation, mais en même temps aussi la socialisation des étudiants, mais aussi de la société civile, pour que chacun d'eux comprenne, par rapport aux enjeux actuels, que les Congolais doivent être unis, mais en même temps, la société civile doit travailler de concert avec la société politique, c'est-à-dire les dirigeants, pour obtenir quand même des approches qui permettent aux citoyens congolais de se mettre debout, de s'élever, et en même temps de leur demander, certes, de résister par rapport à ce qui vient de l'extérieur, mais en même temps résister par rapport à la médiocrité des acteurs politiques qui ne veulent pas comprendre du tout que pour le temps actuel, il faut qu'ils se mettent ensemble. Donc résister par rapport à toutes les difficultés, toutes les déviations observées au niveau de la gestion du pays, mais en même temps résister par rapport aux questions qui se présentent à l'Est, notamment l'agression dont nous sommes l'objet dans un premier temps, mais aussi demander à ceux qui pratiquement dévient de temps en temps par rapport à l'utilisation des aspects comme ceux qu'on a condamnés dernièrement, la discrimination. Nous avons demandé vraiment de le faire tout en respectant la loi et pour ne pas être en dehors de ce que nous devions faire en tant que Congolais, même si on est agressé, mais quand même, nous devons faire montre de notre capacité d'hospitalité et éviter toutes les déviations possibles. La socialisation étant interactive, donc l'individu est appelé en même temps d'être socialisé et d'être socialisateur pour que nous puissions prendre conscience de ce qui nous arrive demain ou après-demain.
Pensez-vous que les Congolais ne sont pas résistants?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, quand on chante les débuts congolais, nous disons, nous avons longtemps courbé nos fronts. Effectivement, des acteurs politiques à la société civile, même aux jeunes, sont distraits. Et cette distraction qui inquiète, et nous risquons d'être surpris un jour que le pays est sous contrôle ennemi, et d'ailleurs il l'est déjà, quand on voit ce qui se passe à Bounagana, à Rutshuru, tout ça, c'est comme si, pour l'instant, les fronts de FRDC restent courbés, quelque part, qu'est-ce que je peux dire? Mais le président, il est là, est-ce qu'il regarde, il ne regarde pas, est-ce que les fronts c'est pas courbé aussi, pour éviter que cette situation ne perdure. Et donc il faut éveiller les uns les autres, leur demander de ne pas continuer à rester dans la distraction, parce que les temps sont mauvais.
Alors professeur, quelle attitude que la communauté congolaise doit-elle adopter pour que nous soyons résistants?
Oui, identifier partout ceux qui naviguent à contre-courant. Dans les rangs des FRDC, au niveau de la police, surtout les politiciens. Les politiciens. Vous savez, c'est vrai qu'on peut reprocher aux acteurs politiques au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale, au Parlement, le président de la République, c'est vrai. Mais ceux de nos frères, acteurs politiques qui entretiennent les milices, comment on peut comprendre quelque chose dans ce sens-là, maman? Mais aussi les opérateurs économiques qui complotent et qui tirent des dividendes parce qu'il faut voir les gens mourir. Parce qu'après tout, on va gagner l'argent. C'est pas normal. J'ai comme l'impression que les Congolais sont distraits et qu'il faut à tout moment qu'ils se réveillent et qu'ensemble nous tenions la main dans la main pour bouter l'ennemi dehors et penser se développer un jour, penser arrêter des projets, penser avoir des ambitions, penser avoir des rêves, pourquoi pas.
Avec ces genres de déclarations, professeur Casimir, avez-vous des preuves?
Oui, sans que je puisse citer le nom des uns et des autres. Il y a des véhicules entiers qui viennent de l'étranger et qui font entrer des effets militaires à l'est de la RDC. J'ai beaucoup d'informations ramassées sur le terrain. Je vous dis, maman Florence, c'est pitoyable. Vous avez des opposants, même quand ils crient tout haut, certains, ils n'ont pas totalement tort, qui pratiquement assistent, n'est-ce pas, à cette impunité. Il faut que les populations se réveillent pour les identifier et pour les mettre hors d'état de nuire pour que nous puissions vivre dans la paix. Moi, je crois qu'il y a lieu de s'arrêter un peu, de dénoncer tous ces messieurs-là.
Vous pensez qu'il y a un pays, grâce à sa résistance, a obtenu gain de cause?
Oui, il y en a plusieurs. Je parlais de la Hongrie, qui a résisté contre l'Autriche, et même les acteurs politiques. Les populations se sont mises ensemble, ils ont bouté l'ennemi dehors, et l'occupation autrichienne a été boutée dehors. Gandhi l'a fait, aux États-Unis, et Martin Luther King, et donc, ce n'est pas impossible, et les Congolais sont capables de le faire. Nous allons résister, mais sans oublier que nous ne pouvons résister que dans le cadre du respect de la loi, et du respect des droits humains pour ne pas verser dans la xénophobie, verser dans ce qui pourrait plus tard être condamnable et comme ça nous allons échouer.
Professeur Casimir Ngoumbi, je vous dis merci.
C'est moi qui vous dis merci, maman Florence.